Voilà, donc merci de me supporter. Je suis toujours un peu inquiet quand on dit les choses que l'on vient de dire, on a de la chance, etc. On verra à la fin, parce que comme hier j'avais des problèmes de train, j'ai relu entièrement ce que je vais vous dire, je l'ai même un peu retravaillé, je me suis dit que c'était vraiment très chiant. Mais bon, mais c'est comme ça. J'ai rien d'autre de près, vous comprenez, les évêques, ça travaille en fait pas beaucoup et ça recycle des vieux trucs. Et en plus, je suis dans une série. Tournée de conférences, il y en a d'autres qui font des tournées de chant, des tournées de conférences. Voilà, et donc il fallait que je prévoie dans un temps assez court des choses pour vous, pour la paroisse française catholique de Barcelone. Donc je suis désolé, hein, mais on fera ce qu'on pourra. Puis de toute façon, un évêque, c'est rarement drôle, donc c'est rarement passionnant à écouter. Alors, j'étais un peu embarrassé quand même sur la commande. Mais comme elle est écrite au-dessus de moi, maintenant, je vais être obligé d'y rentrer dedans. Mon intention, bien sûr, c'est d'honorer ce qui est là sur l'Église qui fait de nous un corps unique, et on va en parler, mais peut-être de partir de ce qui est dessous, des richesses de l'Église. Et pour ça, je vais essayer de vous entraîner. Alors, je sais pas, bon, mon idée, c'est qu'on regarde aujourd'hui. On approche le mystère de l'Église et que peut-être demain on regarde un peu plus notre mission, hein, notamment celle des laïcs, puisque ici vous êtes comme d'habitude majoritaire et je m'en réjouis parce que s'il n'y avait pas de laïcs, il n'y aurait pas de deniers du culte. Et donc c'est extrêmement important. Donc nous traiterons le mystère de l'Église et je vais le faire à partir de ce qu'en a dit Vatican II. On est 50 ans du Concile. Voilà, les conférences habituellement, c'est sur les 50 ans du Concile, donc vous y aurez droit. Et je voudrais qu'on reparte. Tout à l'heure, Régis disait, l'Église n'est pas une institution. Alors je dirais tout à l'heure qu'elle en est une. Mais néanmoins qu'on parte en effet de ce qui me paraît être une originalité du dernier Concile pour aborder l'Église. D'abord, la première, je vais utiliser la grille de lecture que Jean XXIII avait posée au début du Concile. Dans la théologie intransigeante, on distingue l'Église et le monde. Et l'Église d'une société parfaite, qui à la limite n'a pas tellement besoin du monde d'ailleurs, tandis que le monde, évidemment, c'est ce lieu vaste dans lequel on perd son âme avec une certitude quasi absolue, donc il vaut mieux être carmélite. Jean XXIII a suggéré une autre lecture, celle, alors je vais parler de temps en temps patois, vous m'excuserez, mais ces textes sont écrits en patois, la distinction entre ad intra et ad extra. Autrement dit, ad intra, c'est la structure intime de l'Église, c'est ce qu'on va d'abord voir au départ, et on va surtout insister là-dessus. Autrement dit, en elle-même, c'est quoi l'Église? Et ad extra, c'est, alors Jean XXIII disait, face aux exigences et aux nécessités des peuples. Autrement dit, comment ce mystère de l'Église se développe dans sa rencontre avec les multiplicités de la réalité humaine. On pourrait dire aussi, si vous voulez, l'Église donc, en son mystère propre et l'Église dans le monde de ce temps. Vous savez que c'est les deux grandes constitutions qui articulent Vatican II, hein, la première qui est sur le mystère de l'Église, Lumen Gentium, et l'autre sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes. Je n'aborderai pas vraiment, si vraiment vous souhaitez qu'on en reparle, j'ai un truc alors là vraiment épouvantablement lourd à digérer sur Gaudium et Spes, mais ce sera pour une autre fois. Alors, je vais annoncer, vieux souvenir de mon métier antérieur, je vais annoncer ce que je vais dire, comme ça vous pourrez vérifier si je le suis. Marqué du sceau de la Trinité, l'Église et le peuple de Dieu, né du projet du Père, le corps du Christ, poursuivant la mission du Fils, le temple de l'Esprit qu'il envoie et la précède. Elle est une, sainte, catholique et apostolique, elle est en chemin jusqu'à la venue glorieuse du Sauveur où se manifestera le royaume de Dieu déjà commencé en elle. Elle est le sacrement du salut et de l'unité du genre humain, c'est pourquoi elle agit dans le monde, et son modèle, c'est la Vierge Marie. Cette déclaration liminaire, c'est le plan de l'exposé. Première partie, si vous voulez, premier point, il y en a six. Hein. Premier point, l'Église de la Trinité. C'est très rare qu'on dise ça. C'est très rare quand on parle de l'Église qu'on commence. Généralement, quand on parle de l'Église, ou bien on parle de l'organisation, des dysfonctionnements de plus en plus généraux quand les médias parlent de l'Église, c'est rarement de son mystère. C'est le cardinal machin qui a prévariqué dans des affaires immobilières du côté de la Sicile. C'est Monseigneur Truc, on l'a trouvé en situation extrêmement compromettante dans un taxi du côté de Chiacoma, Simo, etc. Bon, voilà. Alors, on va essayer de laisser ça et de revenir ce regard que le Concile porte, l'Église de la Trinité. L'Église est un mystère au sens théologique du terme. C'est-à-dire, alors, oui, alors nos mots, les mots de la tribu, ils ont beaucoup bougé. Aujourd'hui, un mystère, c'est un truc qu'on n'y comprend que dalle, quoi. Voilà, moi quand j'étais au cathé, on me disait la Sainte Trinité, c'est un mystère, on n'y comprend rien. Voilà. Bon, la théologie, c'est pas ça. Le mystère, c'est un signe et une parole par laquelle Dieu accomplit le salut. Donc on est très loin des choses. Ou si vous voulez parler comme saint Paul, le mystère, c'est ce que Dieu nous fait connaître. Donc Dieu nous fait connaître quelque chose à travers l'Église. C'est en cela qu'elle est un mystère. Et dès le seuil de la Constitution sur l'Église, à Vatican II, les pères la définissent comme le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen. C'est que sacrement, c'est la forme latine pour traduire mystère, qui est un mot grec. Voilà, un monsieur qui s'appelait Tertullien, qui a fait plein de bêtises d'ailleurs, mais qui à un moment de sa vie a été amené à dire en latin ce que tout le monde disait en grec. À l'époque, on disait la vraie messe, celle qui est en grec, et il est obligé de dire des choses en latin. Quand il fallut traduire mysterion, il a employé le mot sacramentum. Donc voilà. C'est à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu. Autrement dit, l'Église, c'est ce qui va me permettre à moi, vous permettre à vous, nous permettre à tous, d'être en union intime avec Dieu. Je ne suis pas sûr que ces mots n'aient pas une portée extraordinairement banale quand on les entend, et pourtant c'est énorme, s'unir à Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, enfin. Ce Dieu dont on nous dit que personne ne l'a jamais vu, et celui qui nous dit, c'est l'évangéliste saint Jean. L'union intime avec Dieu est de l'unité du genre humain. Donc le projet de Dieu, quand il fait l'Église, c'est de rassembler l'humanité dans une intimité avec lui, dans une intimité fraternelle. En ce sens, le psaume que nous venons de lire ensemble dit un peu le projet de Dieu. C'est-à-dire que l'Église n'existe pas pour elle-même, et qu'elle n'est pas sa propre fin. Dire ça, ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Elle se reçoit de la Trinité, et elle conduit vers la Trinité. Elle n'est ni sa source, ni sa justification, ni sa fin. La fin de l'Église, c'est Dieu. Et donc, les pères du Concile vont regarder ce mystère de l'Église, et ils vont forcément le regarder selon les dimensions de la Trinité. La première des choses, ils vont dire... L'Église, c'est le projet du Père et la convocation du peuple de Dieu. Autrement dit, au principe, il y a le projet du Père. Il a décidé, alors je cite le Concile, alors écoutez, soyez gentils si des fois vous ne comprenez pas tout, parce que le Concile, ce n'est pas exactement écrit comme les BD, quoi. Donc ce n'est pas toujours facile de suivre les bulles, mais donc s'il y a quelque chose qui fait problème, vous criez très fort. Mais il a décidé d'élever les hommes à la communion de sa vie divine, en considération du Christ rédempteur, il a voulu appeler tous ceux qui croient au Christ à former la Sainte Église, qui, annoncée en figure dès l'origine du monde, merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance, établie dans ces temps qui sont les derniers, s'est manifestée par l'effusion de l'Esprit Saint et au terme des siècles se consommera dans la gloire. Bon, c'est un peu dense, hein, on pourrait faire... conférence sur chacun des termes, mais il y a donc un projet de Dieu, et ce projet, c'est que les hommes soient divinisés. Autrement dit, Dieu est tombé bêtement amoureux de ce singe. L'humanité, par nature, c'est un primate. Un primate pensant, enfin un primate. Et voilà que Dieu se prend de passion pour ce primate, au point d'ailleurs de l'avoir créé à son image et à sa ressemblance, et que de ce grand singe, il veut faire un dieu. Il veut se l'associer à lui-même, dans une unité de vie. C'est ça le projet du Père. Et pour que les gens le sachent et qu'ils le vivent, il va donc constituer le groupe de ceux qui, en étant conscients, essaient de vivre selon cet appel, et donc dans le monde, petit à petit, constitue le début de l'accomplissement du projet du Père. Bien entendu, c'est le principe de l'Église qui est défini là. Il y a un projet de Dieu. L'Église, ce n'est pas des gens, ce n'est pas les copains de Jésus qui ont décidé de faire un club. L'Église, ce n'est pas une association de bienfaisance ou d'information sur le divin. L'Église, c'est la réponse à un appel et à un projet, qui est celui du Père, élever l'humanité au rang de la divinité. Et ça va très loin, puisqu'il y a une phrase, ceux qui vont éventuellement à la messe et qui vont à la vigile pascale, alors normalement on a le choix entre deux lectures, mais entre deux oraisons. Mais vous essayerez d'écouter, si votre pasteur local prend celle-là, vous essayerez d'écouter la troisième oraison de la lecture, l'oraison de la troisième lecture de la veillée pascale, qui rappelle que Dieu a décidé d'élever les nations à la foi et les a rendues participantes à la dignité du peuple d'Israël. Autrement dit, le projet de Dieu, on a vu que les pères disaient qu'il se développe dans l'histoire, il commence par une alliance patiente de Dieu avec un peuple qu'il a choisi. Pas spécialement un peuple reluisant, pas spécialement un peuple fidèle, pas spécialement un peuple très cohérent. Si vous avez pris la peine de lire l'Ancien Testament, vous avez vu que c'est l'histoire des infidélités d'un peuple. Comment un peuple appelé par Dieu, qui lui propose de faire alliance, va passer la totalité de son histoire à faire autre chose. Comment ce qui est le plus marquant dans l'histoire d'Israël, ce sont les cultes cananéens. Autrement dit, l'idolâtrie, l'injustice. N'empêche, c'est ce peuple-là que Dieu a appelé pour commencer son projet, et pour que ce projet se communique au monde. Et nous, quand nous rejoignons le projet du Père, quand nous entrons dans la démarche de l'Église, nous sommes élevés à la dignité du peuple d'Israël. Nous ne nous substituons pas à lui, l'alliance première demeure, mais nous sommes faits participants de cette alliance. Et donc, nous recevons cette dignité qui fait que Dieu appelle Israël son fils, dans l'Ancien Testament. Il a donc constitué un peuple qui est à la fois fait du peuple d'Israël en tant qu'il répond à son appel, et du peuple issu des nations en tant qu'il rejoint Israël. Vous savez que quand Paul en parle, il parle de l'olivier sauvage greffé sur l'olivier franc. Nous n'existons que parce que nous sommes rattachés à la vocation d'Israël. Et il en fait de ce peuple qu'il constitue, le germe et le rassemblement de tous les peuples, nous dit le Concile. Et ce peuple, il a le Christ pour tête, on va y revenir la deuxième sous-partie sur le corps du Christ, mais a le Christ pour tête, et la condition de ce peuple, c'est la dignité et la liberté des fils de Dieu dans le cœur desquels l'Esprit-Saint habite comme dans un temple. Autrement dit, l'une des caractéristiques de ce peuple, c'est la liberté. Je n'ai pas dit la licence, c'est la liberté. Et je crois que l'un des signes que l'Église existe, c'est quand la liberté existe. Moi, je reste... Et c'est que le contraire à la liberté, c'est la peur. On y reviendra tout à l'heure. Mais c'est une des grandes pensées de la lettre aux Hébreux. Quand le Christ vient en ce monde, il vient libérer les hommes de la mort, de sorte que ceux qui étaient esclaves de la mort et vivaient dans la crainte de la mort tout au long de leur vie. Donc, il vient les libérer de cette crainte. On verra comment tout à l'heure. Mais je le dis dès le début parce que, bon, un peu dans l'extase d'avoir un évêque qui vient, il y a quand même un peu ça. Pourquoi un évêque ne viendrait pas? Qui va m'empêcher de venir vous parler? Enfin, je viens pas vous parler de choses futiles quand même. Voilà, je viens vous parler de l'Église et du projet de Dieu. Donc, la sainte liberté des enfants de Dieu, qui n'est pas de faire n'importe quoi, parce que précisément, si c'est celle des enfants de Dieu, ça veut dire que cette liberté est liée au fait que je demeure enfant de Dieu. La liberté des enfants de Dieu, c'est une des premières notes de ce peuple. C'est un peuple libéré. C'est que c'est pour ça, paraît-il, alors, je méfie un peu parce que je ne le crois pas trop. Les études d'histoire me font dire que c'est une histoire un peu inventée. Mais peu importe, je la répète toujours au confirmant parce que je la trouve très belle, quand même, tout en leur disant qu'elle n'est pas sûre. Pourquoi les évêques ont une mitre? Vous savez, machin un peu qu'on accroche dans les portes. Les enfants de cœur, ils bouffent pendant qu'ils les tiennent. Il y en a qui faisaient les trous de nez une fois. Bon. Et qu'au bout d'un moment, vous avez plein de traces de doigts gras. Pourquoi les évêques ont une mitre? Alors, il y a plusieurs explications, mais il y en a une que je trouve très belle. Il semblerait qu'à la fin, au début du 5e siècle, on ait élu pape un affranchi. Alors, les affranchis, les esclaves affranchis à Rome, portaient un bonnet reconnaissable, qui était un bonnet mou, attaché par deux rubans qui pendaient derrière. Ce bonnet, tout le monde le connaît, c'est celui qui est sur la tête de la République, c'est le bonnet phrygien, donc le symbole de la liberté. Et que ce brave évêque de Rome a trouvé quand même, un peu provocateur, qu'il pouvait bien garder son chapeau. Et donc il a gardé le mode affranchi, mais qui apparemment a été transmis aux autres. Vous savez que tous les évêques ont commencé à prendre la mitre au XIe siècle. Mais parce que l'évêque de Rome leur a concédé. Bon. Mais j'aime penser que ça pourrait être ça. C'est-à-dire que je porte sur la tête un bonnet phrygien. Et que je suis le symbole de celui qui conduit un peuple libéré. Un peuple d'affranchi. Bon, vous savez qu'en argot, affranchi, c'est un peu... Mais bon, mais... Ce peuple garde toutes les apparences d'un petit troupeau, nous dit le Concile. Autrement dit, l'Église, c'est pas important qu'elle soit nombreuse, c'est important qu'elle soit. Qu'elle soit nombreuse en apparence, parce que personne ne sait qui est dedans, on va voir ça, mais c'est pas... C'est important qu'elle soit. Je corresponds très régulièrement avec un de mes fils en Afrique, j'ai eu 7 fils en Afrique, de 3 mères différentes. Ça veut dire que j'ai les ordonnés prêtres. Hein. J'ai ordonné quatre rédemptoristes, un frère missionnaire des campagnes et deux diocésains. Et j'ai un des rédemptoristes qui m'écrit très souvent, enfin, on communique par mail, et avec ce style inénarrable de l'Africain de base, c'est un Burkinabé, et il est aujourd'hui, c'est super, envoyé à Agadez. Donc il est un des 3 prêtres d'une paroisse de 1200 km de long, dans laquelle il y a environ 300 chrétiens. Alors on ne sait pas bien parce qu'ils retournent tout le temps à l'islam, donc il fallait leur dire du rien pas la messe. Et ce garçon, il a 30 ans, il est seul là, au milieu de ça, dans les sables, t'entends, il me dit « Papa, vous m'excuserez, je n'écris pas tout de suite parce que je vais à une réunion de jeunes à 800 km. » Qui connaît les pistes de ces heureux pays, hein, ceux qui ont vécu à peu près, ça veut dire faire 800 km. Et il me dit « Mais il y a des jours, je me demande ce que je fais là. » Ils sont 3, ils rassemblent dimanche 5-6 braves dames. Enfin bon. Et je lui dis « Tu sais, vous êtes l'Église. Et cette Église-là, elle sauve le reste du monde. Parce qu'elle le porte. Donc le peuple de Dieu, il n'est pas nécessaire qu'il soit nombreux, il est nécessaire qu'il soit fidèle. Il est entre les mains du Christ l'instrument de rédemption de tous les hommes. Au monde entier, il est envoyé comme lumière du monde et celle de la terre. » C'est le Mengensum numéro 9. Ce peuple a 2 caractéristiques. La première, c'est un peuple sacerdotal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans les religions anciennes, dans les religions, les vraies religions, les hommes se sentent incapables de rencontrer le divin et donc délèguent des gens qui vont faire le lien entre le divin et eux, ce qu'on appelle les prêtres. Toutes les religions anciennes, ou à peu près, ont un système sacerdotal, c'est-à-dire des gens qui vont à la rencontre du divin et qui essaient de le rendre favorable, propitiable, à ceux qu'il représente. En général, en égorgeant des chèvres qui n'ont rien demandé à personne. Enfin, bon, voilà. Dans le système chrétien, dans le système déjà juif, dans la pensée des prophètes, se fait l'idée que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, que c'est Dieu qui vient à la rencontre des hommes, mais que les hommes qui ont compris cela deviennent du coup les interfaces entre Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Et qu'ils sont amenés à donner un sens à ce que vivent tous les autres. Alors s'il y en a parmi vous qui ont le goût du théâtre, qui ont supporté la représentation du soulier de Satan, vous savez, celui dont Mauriac disait à la sortie, heureusement, il n'y avait pas la paire. Non. Qui ont vu le soulier de Satan, vous vous souvenez du début où il y a ce brave jésuite, il n'y a pas de jésuite dans la salle, ce brave jésuite attaché à un mât qui dérive sur la mer et qui à un moment dit « Tout ce que vous essayez misérablement de dire sur la terre, je suis là pour l'exprimer dans le ciel. » Eh bien, le sacerdoce, dans l'économie biblique, c'est ça. Autrement dit, ceux qui répondent à l'appel du Père, qui sont unis au Fils et qui accueillent en leur cœur l'Esprit, deviennent les prêtres du monde. Par notre baptême, je dis par notre baptême, nous sommes les prêtres du monde auprès de Dieu. C'est-à-dire, nous faisons que cette humanité qui ne connaît pas Dieu, d'un seul coup, est remise à Dieu à travers notre prière et simplement notre présence et notre vie. On verra quand on parlera de l'apostolat des laïcs. Autrement dit, nous sommes un peuple sacerdotal. Les baptisés, en effet, dit le Concile, par la régénération et l'onction de l'Esprit-Saint, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, pour offrir par toutes les activités du chrétien autant de sacrifices spirituels et proclamer les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lumière. Vous avez vu la citation de Saint-Pierre au passage, Et ce que je viens de vous lire là, c'est le numéro 10 de Lumen Gentium. Et la matière du sacrifice, vous savez que qui dit sacerdoce dit sacrifice, c'est-à-dire quelque chose qui est offert. La matière du sacrifice, ce sont les chrétiens eux-mêmes. C'est eux qui s'offrent en victime vivante, sainte et agréable à Dieu, dit le Concile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'offrande de nos vies, la remise confiante entre nos mains, elle accomplit ce mystère du passage de l'humanité à Dieu. Alors, ne voyez pas ça, parce que les mots sont très embarrassants. Moi, la meilleure définition du sacrifice que je connaisse, elle est dans la Cité de Dieu de saint Augustin. Ça doit être, je crois, au livre 10, et je crois que c'est le chapitre 10, mais les patrologues me corrigeront. Quand saint Augustin dit « Le sacrifice, c'est tout acte par lequel je m'unis en Dieu en vue du bonheur. » Alors, en vue de la béatitude, si vous voulez. « Tout acte par lequel je m'unis à Dieu en vue du bonheur. » L'acte peut être douloureux, hein, parce que choisir le bonheur, ça fait mal, parfois. Mais ce n'est pas la souffrance qui constitue le sacrifice, c'est l'union à Dieu. Si vous avez été à la messe pour le 2 février, vous avez entendu le psaume 39 que l'on a chanté, hein, puisque ce jour-là, on regarde le sacrifice du Fils. Hein, autrement dit, il s'offre au Père, il se remet à lui. Psaume 32, que la lettre aux Hébreux nous présente comme le sacrifice parfait du Fils. Comment le Christ est-il prêtre? Eh bien, il est prêtre comme ça. Tu ne voulais ni sacrifice, ni holocauste, ni sacrifice pour l'expiation du péché, mais tu m'as donné un corps, alors j'ai dit, me voici, je viens faire ta volonté. Voilà, le sacrifice, il est là, dans l'union de volonté et d'amour, bien sûr, au projet du Père de sanctifier les hommes. Ça, le sacrifice. Et donc, il va évidemment prendre toute notre vie, sans nécessairement qu'on y arrive toujours, ça c'est pas la question, mais c'est notre projet, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Ce sacerdoce, les chrétiens l'exercent dans les sacrements, bien sûr, et par toute leur vie. Les sacrements qui ne sont jamais donnés seulement pour celui qui le reçoit. Ça c'est la chose la plus étonnante qu'on fait découvrir aux gens qu'on prépare au mariage. Quand on dit vous ne vous mariez pas pour vous. Le sacrement du mariage n'est pas donné pour le bien, enfin il est donné pour le bien des époux, mais il n'est pas donné pour leur unique bien. Un jour, je disais à prêchant à des équipes Notre-Dame qui m'avaient demandé ça, j'aurais dit, vous n'avez pas reçu le sacrement de mariage, vous êtes le sacrement du mariage. Autrement dit, vous êtes posé dans le monde pour signifier le désir que Dieu a s'unir à l'homme. Et votre vie doit concourir à ça. Donc, les sacrements, tous les sacrements qu'on reçoit ne sont pas pour nous, ils sont pour que nous accomplissions pleinement ce pourquoi nous avons été appelés. Et le Concile dit... Tous les hommes sont appelés à faire partie de ce peuple. C'est pourquoi l'Église sert et assume toutes les richesses, les ressources et les forces et les formes de vie des peuples dans ce qu'elles ont de bon. Bien. Deuxième caractéristique de ce peuple, c'est un peuple organisé. C'est là où apparaît l'institution. La différence entre un peuple et une foule, c'est qu'un peuple est organisé, pas une foule. Voilà. Et donc, si on parle de peuple de Dieu, il y a nécessairement un principe organisatif. Concile nous dit, l'Église a reçu du Christ les moyens de son unité visible et sociale. Bon, si on ne voit pas l'Église, si elle est simplement des gens dispersés, bah, il y a une partie de sa mission. Alors parfois c'est le cas. Hein. Je rencontre des gens qui sont chrétiens en Arabie Saoudite, je vous assure qu'ils ne sont pas visibles hein, sur place. Mais bon, on reste quand même des choses un peu exceptionnelles. C'est un minimum de visibilité, d'organisation. Aussi, le Christ a doté le peuple de Dieu de ministères variés, qui tendent au bien du corps. Et ces ministères sont au service de leurs frères. Alors je sais bien que l'histoire des ministères dans l'Église n'est pas une histoire très heureuse. Parce que, bon, je suis évêque. Alors la question que vous posent les gamins, pourquoi on vous appelle au Monseigneur? Bon, qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Parce que dans le midi, on adore un peu les évêques au Monseigneur. Vous savez tout de suite, ces gens sont en dessous du 45e parallèle, la façon dont ils vous appellent. Bon, mais, oh, Monseigneur. Je suis bien obligé de dire, parce qu'à un moment donné, les princes et les rois ont confisqué l'Église à leur service et ont mis en place, d'une façon pas chère de rétribuer leurs copains, ont mis en place des gens qui ont confondu l'exercice d'un pouvoir politique et l'exercice du service de la communauté. Et que dans l'imaginaire encore aujourd'hui des gens, l'évêque c'est beaucoup moins... Parce que ça paraît une merveille, si je suis dans une réunion et vous savez, une rencontre de week-end, et si je vais faire la vaisselle, on me photographie, c'est extraordinaire quand même. Bon, peut-être que je la fais mal, mais je veux dire, mais c'est, qu'est-ce que ça d'extraordinaire qu'un évêque fasse la vaisselle? Je la fais tous les jours chez moi. Mais dans l'imaginaire, c'est pas comme ça qu'on le voit. Pourquoi? Parce que petit à petit, les ministères ont été détournés, enfin, jamais totalement, parce que la grâce de Dieu passe, mais ont pris des connotations embarrassantes, et qu'elles ont pu devenir elles ont pu devenir au contraire des lieux d'oppression au lieu d'être des lieux de libération. Et vous savez que c'est pas fini. Tout le monde a rencontré dans sa vie voilà, l'honnête bénévole qui se met au service de la paroisse, quel que soit son sexe d'ailleurs, et au bout d'un moment, qui a pris le pouvoir, et plus personne ne peut rentrer dans la sacristie, le curé il dit « pardon, est-ce que je peux venir dire la messe dimanche ?» Bon, voilà. Et bon, tout le monde connaît ça, donc ça c'est le risque hein, de toute chose. Mais ce n'était pas le projet du Christ, il n'a pas fait de Monseigneur, il appelait des apôtres. Ces divers ministères sont au service des frères, et à la racine de tout ministère dans l'Église, il y a l'appel des 12. Je n'ai pas dit des apôtres, j'ai dit des 12. Jésus appelle 12 hommes qui ne sont pas ceux qui sont le plus proches de lui. Hein, les gens qui sont proches de lui, c'est Lazare, Marthe et Marie, par exemple. Mais Lazare n'est pas apôtre, ni Marthe, ni Marie. Bon, les 12 qu'il choisit pour vivre avec lui et pour continuer la tâche au service du peuple. Comme nous dit le Concile, les 12 ont institué les évêques et par sacrement, bon, ont constitué un collège. Alors ça aussi, ça fait partie du mystère de l'Église. C'est-à-dire que bon, tout à l'heure, j'ai dit « je ne veux pas mettre en difficulté mes confrères ». Moi, ça ne me gêne pas d'être là, et ça ne les gênerait pas de savoir que je suis ça. Bon, on n'en a pas parlé avant, disons qu'on n'a pas prise, et que nous sommes sous le feu des médias extraordinairement malveillants, comme vous le savez, qui risquent de l'interpréter de toutes les façons possibles, y compris désagréables pour vous, et pas seulement pour nous. Donc, il y a des choses qu'on ne veut pas faire. Mais, ceci étant dit, c'est parce que je suis conscient d'appartenir à un collège. J'ai des frères évêques, bon, je ne les aurais pas forcément tous invités à bouffer, mais même si aujourd'hui on est très, très, non, c'est très heureux, je regrette qu'on ne puisse pas, enfin, que les journaux trouvent que, enfin, les télés trouvent que ce n'est pas intéressant de montrer ça. Je vous assure, j'aimerais qu'on voit le climat qui règne dans des assemblées d'évêques, c'est très drôle, c'est même un peu potage, on se fait des blagues un peu douteuses, etc., mais c'est très fraternel. Bon. Mais, je veux dire, au départ, rien ne nous prédisposait à nous rencontrer, on a répondu à un appel. Mais il y a ce collège qui est au cours. Et ce collège, il a un principe d'unité. Si les 12 avaient comme garant Pierre, qui est chargé de confirmer ses frères dans la foi, les évêques d'aujourd'hui, qui sont un peu plus de 12, ont évidemment l'évêque de Rome comme principe d'unité. Mais comme principe d'unité, et parce qu'il est l'évêque de l'Église qui préside à la charité des Églises, comme disait mon confrère Saint Ignace d'Antioche il y a quelques années. Les évêques sont donc effectivement à la source de la prédication et de la célébration des sacrements et du gouvernement de l'Église, mais ils le sont au service de la mission commune de leurs frères. Autrement dit, il faut toujours imaginer l'Église à l'envers de ce que l'on voit, à l'envers des images du grand catéchisme de mon enfance. C'était extraordinaire, j'aurais dû en amener, mais vous savez, on voyait, c'était toute une page, il y avait des nuées, et Saint-Pierre de Rome. Et au sommet de Saint-Pierre de Rome, il y avait le pape régnant. Alors le pape régnant, quand j'étais petit, c'était déjà plus le même. Enfin, mais voilà, un pape. Puis en dessous, il y avait une rangée de cardinaux avec des chapeaux extraordinaires. Puis il y avait une rangée d'évêques. Puis après, il y avait du curé en masse. Puis il y avait des religieuses. Puis après, il y avait un troupeau inidentifiable. Il n'y avait plus de visage. C'était le peuple de Dieu. Bon. Eh bien, il faut imaginer l'image à l'envers. Voilà. Il y a un peuple de Dieu qui est rassemblé par le Père. Et ce peuple, pour qu'il existe, il a des gens à son service. Alors le gouvernement peut être un service. Le devoir de l'évêque, le devoir du prêtre, mais les prêtres c'est des morceaux d'évêque, hein, vous savez ça, c'est de pouvoir dire non parfois. Et c'est son devoir. Nous ne pouvons pas toujours tenter de dire non, 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 non. Ça c'est plus conforme à l'évangile. C'est plus conforme à l'unité de l'Église. C'est plus conforme à l'appel de la communauté. Il faut pouvoir le dire. Mais on ne peut pas le dire au nom d'un pouvoir magique dont on disposerait, mais au titre du service qui nous a été confié. Et donc, évidemment, je vous ai dit que les prêtres sont des morceaux d'évêques, un concile qui parle mieux que moi dit « Les prêtres rendent présents l'évêque dans chaque communauté de fidèles. Et ils portent leur charge dans la fraternité du presbytérium. Les évêques sont en collège, les prêtres sont dans un collège. Ça s'appelle le presbytérium, dont l'évêque est le garant. L'évêque est la tête, dit le concile. Et le concile évoque, en passant, quelque chose qui s'est beaucoup développé depuis, sont les diacres. Mais c'est qu'il n'y en avait pas au Vatican II. Enfin, il y en avait, mais ils étaient un peu transitoires. Les diacres, en communion avec l'évêque, son presbytérium, servent le peuple de Dieu. Et les laïcs. Car enfin, il n'y a quand même pas tant d'évêques que ça. Hein. Il n'y a pas tant de diacres ni de prêtres, surtout chez nous. et les laïcs. Les laïcs sont la part la plus nombreuse du peuple de Dieu, dit le Concile qui était observateur, mais en même temps, ce peuple, il est unique. Alors là, je cite le Concile. « Commune est la dignité des membres du fait de leur régénération dans le Christ. Commune, la grâce d'adoption filiale. Commune, la vocation à la perfection. Il n'y a qu'un salut, qu'une espérance, qu'une charité, sans division. » Autrement dit, les préséances ne sont acceptables que dans l'ordre liturgique. C'est un peu curieux ce que je veux dire. Parce que dans l'ordre liturgique, l'évêque, les prêtres, les diacres tiennent la place d'un autre. Le rendent visible. Mais il n'y a pas de raison particulière pour que dans la vie ordinaire, ces préséances s'imposent. Bon, soyez quand même sympa avec votre évêque, mais je veux dire, c'est d'abord un frère dans la foi. Frère baptisé, bien sûr, il a reçu, on pourra en parler, il a reçu le sacrement de l'ordre, qu'il constitue d'une façon différente, radicalement différente, signe du sacerdoce du Christ, mais fondamentalement, il est un chrétien. C'est Pionze à qui on avait demandé, une interview dans les années 30, quel a été le plus grand jour de votre vie. C'est ce que Pionze avait répondu, le jour de mon baptême. Et je crois que ça, c'est fondamental. Il y a une égalité fondamentale de tous les chrétiens à partir de leur baptême. Et qui fait que ça, c'est fondateur de ce qu'est le peuple de Dieu. Ils n'ont qu'un peuple organisé, mais il n'est hiérarchisé qu'à condition de redonner son sens primitif au mot hiérarchie. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'intérieur, certains sont appelés au service du peuple pour l'organiser, mais en aucun cas pour une sorte de préséance, de prépotence, comme disent les Italiens. Pourquoi ? Eh bien parce que ça, et c'est le deuxième sous-machin, la deuxième sous-machin de la première partie, parce que ce peuple, c'est le corps du Christ. Alors, je ne sais pas comment il faut le dire, parce que j'ai le sentiment que beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Quand on dit le corps du Christ, à quoi spontanément pensez-vous ? Je suis persuadé que d'entre vous, la réponse va être à l'Eucharistie. C'est ce que répondent la plupart des gens. Alors c'est vrai, bien sûr. Mais le corps du Christ, c'est l'Église. Et l'Eucharistie, c'est le sacrement par lequel nous devenons le corps du Christ. Et parfois, je suis très inquiet quand je vois aujourd'hui un retour de... On adore beaucoup ces derniers temps. Un retour très solennel de la liturgie eucharistique en dehors de la messe, ce qui n'est pas sans poser des questions. Je me dis, mais comment se fait-il ? Et je suis pour, je veux dire, j'ai un infini respect pour les espèces eucharistiques, là n'est pas la question. Mais comment se fait-il que ce respect n'implique pas pour autant le même respect pour les membres du corps du Christ, que sont tous nos frères ? À la fois ceux qui, par le baptême, participent à l'Église, mais ceux qui ont vocation à y venir, même s'ils ne viendront jamais. C'était Elder Camara qui racontait ça un jour dans un de ses villages. Les groupes paramilitaires étaient venus, c'était des paysans, vous savez, qui squattaient une latifondia. Et les groupes paramilitaires étaient venus détruire l'église et ils avaient jeté le Saint-Sacrement dans la boue. Et les gens étaient bouleversés. Ils avaient dit « Père, il faut que tu viennes pour réconcilier l'église ». Ce qu'il a fait, donc il est venu, c'est prévu. Et donc il a fait la célébration. Et puis il leur a dit « Voyez, vous avez été bouleversés de voir le corps du Seigneur dans la boue. Et vraiment, vous avez eu raison. Parce que... c'est pas juste, parce que on ne peut pas être chrétien et voir l'Eucharistie profanée. Mais, tous les jours, vous voyez le corps du Christ dans la boue à travers vos frères, êtes-vous aussi ému ? Une question que nous devons nous poser. Le corps du Christ, c'est ce peuple improbable et insupportable que le Père a convoqué. Le Fils, dit le Concile, va envoyé par le Père qui nous avait choisi en lui avant la création du monde et prédestiné à une adoption filiale, selon le libre dessein de tout rassembler en lui. Jésus donc inaugure le royaume des cieux sur la terre, révèle son mystère, effectue la rédemption. Tous les hommes sont appelés au salut. Jésus a fait des hommes qu'il rassemblait mystiquement comme son corps. C'est l'une des phrases que nos frères lefévristes ne supportent pas. Et qui est dans Gaudium et Spes. Par son incarnation, le Verbe de Dieu s'est en quelque sorte uni à toute personne humaine. C'est extraordinaire comme phrase. Quand nous contemplons le mystère de l'incarnation du Fils, nous regardons Dieu venir s'unir de façon définitive à l'humanité, puisqu'on ne peut pas couper Jésus. qui est vrai Dieu et vrai homme. Mais en lui, l'humanité et la divinité sont définitivement liées. C'est-à-dire que l'histoire a réussi. D'une certaine façon, le projet du Père est accompli dans l'homme Jésus. Puisqu'il y a bien un homme qui est totalement uni à Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même. Eh bien, nous participons de ce mouvement, car ce n'est pas seulement l'homme Jésus, mais c'est la totalité de l'humanité qui entre dans ce chemin. Et donc, tous ceux qui consentent à répondre à l'appel du Christ, et en croyant, nous pouvons dire, peut-être même sans le savoir, sont membres de ce corps et participent à sa dignité. Je vous ai dit que dans le peuple de Dieu, les ministères ne sont que de service. Et que ce qui est fondamental, c'est l'unité première du baptême. Bien dans le corps du Christ, nous comprenons mieux si c'est un corps, les membres sont nécessairement différents, nécessairement complémentaires, et donc parfaitement égaux. Le corps du Christ, c'est un ensemble organique. Et je ne suis pas sûr que nous ayons conscience que si nous sommes chrétiens, nous sommes organiquement liés à tous les autres, y compris à ceux avec lesquels nous n'avons pas forcément de très bonnes relations. Ils sont, pour nous, la présence du Christ. Nous sommes pour eux la présence du Christ. Et ensemble, nous manifestons le Christ présent. Quand les jeunes disent « Ah, pourquoi il faut aller à la messe le dimanche ?» Je leur explique plein de choses, mais je leur dis « Parce que en allant à la messe et en communiant, nous sommes l'Eucharistie de ceux qui ne sont pas allés. » Quand le matin, on retourne au boulot, le lundi matin, tous ces gens-là qui ont fait autre chose le dimanche, parce qu'ils sont avec nous, communient au mystère du Christ, puisque le corps du Christ est présent parmi eux. Et établit des liens d'humanité avec eux. Nous sommes vraiment, parler du corps du Christ, c'est parler d'une présence eucharistique, pas seulement d'une espèce de symbolique. Le corps du Christ n'est pas symbolique, il est effectif. Et du coup, bien sûr, c'est pour cela que nous sommes un peuple de prêtres, parce que si nous sommes le corps de l'unique prêtre, c'est-à-dire l'unique homme qui a parfaitement rencontré la divinité, alors évidemment, nous participons à son ministère de prêtre. Et nous sommes le sacerdoce du monde. C'est parce que nous sommes le corps du Christ que nous sommes, par le baptême, les prophètes. C'est-à-dire que notre parole laisse passer la parole du Christ vers nos frères. Puisque le prophète, c'est celui qui parle, hein, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Et c'est parce que nous sommes le corps du Christ que nous participons à sa royauté. Alors évidemment, la royauté du Christ n'est pas forcément celle qu'on rêve. Dans la toute-puissance infantile, quand on était petit, oh, ils verront quand je serai grand, est-ce que je vais à refaire. Alors, évidemment, ce n'est pas tellement cette vision-là de la royauté qui est chez le Christ. La royauté du Christ, c'est vrai qu'elle n'est connue que sur la croix. Le seul endroit où il a été dit officiellement qu'il était roi, c'est l'écriteau de Pilate. Bon. Et donc, le service royal du Christ est un service de serviteur. Car, en effet, le pouvoir du Christ est un pouvoir relatif. Vous savez ce que dit saint Paul ? Il a tout reçu, hein, il a été placé au-dessus de toute chose, en attendant que lui-même se soumette au Père avec toute la création. C'est-à-dire que le Fils se remet lui-même au Père. Donc il n'est pas roi à la place du Père. Il est roi pour rassembler les hommes, c'est la tâche du royal, c'est la tâche du rassemblement, et les conduire au Père. Et donc, nous les disciples du Christ, nous dit le Concile, nous avons été établis dans la liberté royale pour qu'ils arrachent au péché son emprise en eux-mêmes par leur abnégation et la sainteté de leur vie, bien mieux pour que, servant le Christ également dans les autres, ils puissent, dans l'humilité et la patience, conduire leurs frères jusqu'au roi dont les serviteurs sont eux-mêmes des rois. Et donc, si nous sommes le corps du Christ, nous sommes la continuation de sa mission. Christ, Jésus de Nazareth est retourné au Père le jour de l'Ascension, mais il est présent par son corps qui est l'Église. Mon frère Jacques Bénin Bossuet aimait dire que l'Église, c'est Jésus-Christ dilaté et communiqué. Voilà. Eh bien, nous sommes la dilatation du Christ, la communication du Christ au monde. Pourquoi ? Parce que je dis toujours aux gamins là, qu'on prépare à la confirmation. Qui continue le travail du Christ ? Alors quelquefois, quelques-uns me disent « c'est nous », ils ont raison, c'est nous. Le Christ présent aujourd'hui en ce monde, c'est nous. C'est nous ensemble, chacun d'entre nous, on ne va pas se prendre pour le Christ, mais c'est nous ensemble, c'est nous dans ce corps, mais chacun comme partie de ce corps, nous sommes aussi la présence du Christ en nous-mêmes pour les autres. Et le Concile dit « C'est donc par la même route qu'a suivi le Christ lui-même que sous la poussée de l'Esprit du Christ, l'Église doit marcher, c'est-à-dire par la route de la pauvreté, de l'obéissance, du service, de l'immolation de soi jusqu'à la mort, dont il est sorti vainqueur par la résurrection. Alors en lisant ça, je me souviens toujours d'un jour où j'étais allé manger chez des diocésains, très très bien, très convenable, qui descendent d'aïeux tout à fait atypiques. C'était un vendredi, c'est une importance, c'était un 21 janvier. Et j'étais assis en face du portrait de Louis XVIII. Et à un moment de la soirée, Madame la Comtesse a dit « Oh, quelle joie d'avoir notre évêque le 21 janvier !» J'ai dit « Oui, oui, Sainte Agnès, j'aime beaucoup Sainte Agnès. » Il y a un petit silence autour de la table et un des fils m'a dit « La mort du roi. » Alors là, j'ai retenu, parce que spontanément, je voulais dire « Et de Lénine », mais je n'ai pas dit ça, bien sûr. Et alors, j'ai dit « Effectivement. » Et tout de suite après, nous passions, on vous reçoit comme nous faisons d'habitude. Alors, c'est vendredi, on dit le rosaire. Donc on est passé au salon, on a tout éteint, il y a juste la cheminée et on a dit les mystères douloureux. Avec un texte qui datait un peu, c'était premier mystère, la mortification de deuxième mystère, la mortification de troisième. Et à un moment, le plus jeune des fils, qui est celui qui est le moins conforme, a dit dans le soir, eh ben il y en a des mortifications dans ce truc. Bon, alors on pourrait penser avec ce que je viens de lire qu'il y a beaucoup de mortifications dans ce truc. Alors, je vais quand même le reprendre. La route de la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas simplement un problème d'argent ou de bien. C'est un problème de regard sur soi-même à l'intérieur et de disponibilité. Et très souvent, nous sommes très doués les chrétiens pour parler de la pauvreté et nous avons beaucoup de mal à accepter quand c'est la nôtre. Il y a des gens qui sont prêts à donner plein de fric à tout le monde, peut-être même à souffrir tout, mais à accepter leur propre pauvreté, leur difficulté d'avancer. Comme non pas une catastrophe, mais comme le lieu où justement, parce qu'ils sont pauvres, alors ils ont besoin de Dieu. Car l'intérêt d'être pauvre, c'est pas de manquer de quelque chose, c'est d'avoir besoin de l'amour de Dieu pour nous relever. Et je trouve que Dieu fait une grande grâce aux églises occidentales aujourd'hui parce qu'il les a mises dans une grande situation de pauvreté. Je suis en train de faire l'illumination de mon diocèse, il manque deux gars. Voilà. Je peux tourner dans tous les sens, il m'en manque deux. Et je ne sais pas comment je vais faire. Je pense qu'on y arrivera. Mais... Et en plus, tous ceux que je nomme, je ne suis pas sûr que si j'avais de l'abondance, je nommerais là où je les mets. Mais voilà, ça c'est la pauvreté. Et puis il y a la mienne. Ils ne sont pas un évêque assez intelligent pour pouvoir gérer le tout. Eh bien, je me dis, voilà, on est pauvre. Donc on s'assoit, on dit au Seigneur, écoute, hein, tu m'as foutu dans la merde maintenant, j'ai besoin de toi, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait ? La pauvreté d'accepter notre vie avec ses limites, avec toutes les limites que l'on peut avoir rencontrées dans notre vie. Non pas comme des catastrophes, mais comme des lieux qui nous ouvrent à Dieu. Très souvent, nous pensons que Dieu a besoin de nos capacités. Et si nous nous laissons conduire par lui, nous verrons très vite que c'est rarement par nos capacités qu'il passe, mais plutôt par nos faiblesses et nos failles. Je reste toujours très étonné, il y a plein de trucs dont j'étais très sûr d'être très compétent, on ne les a jamais demandés. Ou alors quand on me les demande, c'est quand j'y pense plus, parce que bon, c'est pas la peine, ils sont trop bêtes, ils n'ont pas vu, bon, puis un jour on vous le demande. À ce moment-là, ça ne vous intéresse plus du tout d'ailleurs, parce que vous avez trouvé plein d'autres choses intéressantes à faire. Mais je crois, cette pauvreté, et croire que Dieu n'a besoin que de notre faiblesse. Alors, bon, je vais faire n'importe quoi, mais je crois quand même que cette pauvreté, c'est la pauvreté au cœur de notre vie. Alors, c'est aussi, bien sûr, la pauvreté, bon, de temps en temps, il y a quand même une certaine indécence, y compris chez les chrétiens, dans des modes de vie que l'on n'a, à mon avis, pas le droit d'avoir dans un monde où tant d'autres sont privés du nécessaire. Donc, c'est aussi la pauvreté, c'est aussi une solidarité. L'obéissance. Voilà un mot qu'on n'aime vraiment pas aujourd'hui. On n'aime vraiment pas. Et qui est une grande tentation quand on est du côté du pouvoir. Alors surtout le pouvoir ecclésiastique. Mon fils, je vous le demande sur la sainte obéissance. Mais l'obéissance, ce n'est pas ça. Vous savez que pour les hellénistes brillants de l'Assemblée, vous savez que le verbe obéir, au moins dans le Nouveau Testament, c'est oup akou. Donc écouter par en dessous. Donc. L'obéissance, c'est celui qui écoute le projet de Dieu et qui essaie de s'y conformer. Et qui essaie de s'y conformer parce qu'il croit que le projet de Dieu est de le rendre heureux. Alors peut-être qu'il trouve un peu bizarre les chemins que Dieu prend pour son bonheur, mais comme quand on est petit, hein, on ne comprend pas toujours pourquoi les parents nous disent non, alors que nous, on a tellement d'autres envies. L'obéissance, car on n'obéit qu'à Dieu. Et si on obéit au pouvoir constitué de l'État, de la cité, de la société, ou même de l'Église, on ne peut le faire qu'à condition d'y chercher une écoute de Dieu. Un très beau passage d'une lettre de saint François de Sales qui dit « Notre Seigneur Jésus-Christ s'est rendu obéissant à Pilate et à Hérode. Non pas qu'il croyait qu'ils fussent bons, hein, il les savait mauvais, mais faisant cela, il cherchait la volonté de son Père. » Donc ça, c'est un peu fin comme propos, mais c'est pas du tout l'obéissance idiote, quoi. Du service, bon. Alors le service, vous savez, c'est très compliqué, parce que le service, on a toujours une idée. Vous savez, c'est la blague du Boy Scout qui fait traverser la route à la mémé qui n'avait pas du tout l'intention de traverser. Il faut ramener de l'autre côté, mais il avait sa BA. Le service, c'est parfois attendre qu'on nous demande quelque chose. C'est pas forcément avoir l'idée de ce que l'on doit à tout prix rendre comme service à autrui. Et alors, du coup, vous allez découvrir que c'est parfois étonnant, parce que c'est pas ce qu'on aurait aimé faire. Et ça marche. Quand j'ai été appelé au diaconat, mon évêque m'avait dit « Tu vas être ordonné diacre, il faut que tu réfléchisses sur le service. » Alors, il m'avait mis un texte, j'avais des projets. Et j'arrive dans l'abbaye où j'allais, là, je descends de ma voiture, et le père hôtelier, qui était un sacré pistolet, enfin, il me dit « Ah, t'arrives, ah, bah, heureusement, parce que toutes nos bagnoles sont en panne ou en révision, il y a des gens qui attendent à la gare, il faut qu'ils aillent chercher. » Je vais donc chercher les gens à la gare avec mon petit panneau. Bon. Et puis je les ramène. Puis quand j'aurai dit, bon, alors maintenant on va faire les courses. Et pendant la semaine de retraite prévue, je vais trimballer le père hôtelier partout tous les jours. Je vais chercher les gens à la gare, je vais les ramener. Et puis comme la dame qui donnait un coup de main s'était cassée le pied ou je sais pas quoi, j'ai passé la serpillière dans les couloirs. J'étais furax. En disant, enfin merde, je suis quand même venu faire une retraite, quoi, pas la bonne. Bon. Jusqu'au moment où, dans un des rares moments de clairvoyance qui m'arrive quelquefois dans ma vie, puis après tout, tu voulais méditer sur le service, et ben voilà, tu sers. Et maintenant, essaie de regarder ce que ça veut dire et ce que c'est. L'immolation de soi jusqu'à la mort. Alors, c'est toujours très dangereux, parce qu'il y a des gens qui croient que leur pulsion de mort intérieure coïncide avec la volonté de Dieu. Vous savez, des gens qui s'immolent très facilement. C'est pas du tout ça. L'immolation de soi jusqu'à la mort, le modèle, c'est Jésus. Jésus, il ne se suicide pas. Jusqu'au bout, il fait ce qu'il faut pour que les gens comprennent. Les gens ne comprennent pas. Et devant l'incompréhension, il n'a recours ni à la violence, ni à la fuite. La croix, c'est ça. Avant d'être les clous et les planches, enfin, c'est pas rien, évidemment, mais la croix, c'est ce moment précis, au jardin des Oliviers, où Jésus est placé devant un double choix. Peut retourner à la pêche dans le lac de Galilée avec ses copains. Mais il a trahi son père. Il peut faire un super miracle. D'ailleurs, on sent qu'il y a pensé. Hein, ne crois-tu pas que si je demandais à mon père d'envoyer 12 les gendarmes, je ne le ferais pas aussitôt. Ou organiser la guérilla. Les autres sont nés avec des mitraillettes. Donc, c'est possible. Remets ton épée au fourreau. Et oui, il choisit à la fois la fidélité la plus absolue et la plus totale à sa mission, et le respect le plus absolu de ses frères. C'est l'immolation. C'est-à-dire le moment où l'autre, alors l'autre avec un A majuscule, ou l'autre avec un A minuscule, devient plus important que moi. Et je crois quand même que ça, il y a forcément des moments de sa vie où on est obligé de faire ce choix-là. On peut ne pas le faire. Mais il est là. C'est-à-dire, s'immoler, c'est pas se donner des coups de fouet le soir parce qu'on est allé regarder des choses douteuses sur Internet, mais c'est être capable de laisser la place à l'autre, au point que moi-même, je disparaisse. Et le Christ qui a vécu cela, on est sorti vainqueur par la résurrection. Donc, être le corps du Christ, c'est ça. Alors, on va terminer quand même l'œuvre de la Trinité, puis après, on pourra s'arrêter. L'œuvre de l'Esprit-Saint est le temple où il réside. Ça, c'est une définition de l'Église par Vatican II. Une fois achevée, l'œuvre que le Père avait chargé le Fils d'accomplir sur la terre le jour de Pentecôte, l'Esprit-Saint fut envoyé qui devait sanctifier l'Église en permanence et procurer ainsi aux croyants par le Christ, dans l'unique Esprit, l'accès auprès du Père. L'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles comme dans un temple. Cette Église, il l'introduit à la vérité tout entière et il en assure l'unité dans la communion. Par la vertu de l'Évangile, il rajeunit l'Église et la renouvelle sans cesse, acheminant à l'union parfaite avec son époux. L'œuvre de l'Esprit, c'est vrai qu'on parle peu de l'Esprit. Quand on en parle, c'est plus à travers les charismes qu'il donne, qui sont parfois un peu surprenants. L'œuvre de l'Esprit, c'est cet amour mystérieux qui fait tenir ensemble le corps. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Quand on va à la messe le dimanche, quand on regarde les gens qui nous entourent, dans quelle vie on les aurait fréquentés? Et pourtant, nous les avons rejoints et nous sommes au milieu d'eux. Mais, je vais dire même vous, bon, il y a quelques intérêts communs, mais dans quel monde on se retrouve? Et qu'est-ce qui va permettre qu'une fraternité profonde traverse le cœur des hommes? Mais du coup, cet amour de Dieu, puisque l'Esprit, c'est celui qui en Dieu est l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Hein, c'est le visagement de Dieu, l'amour. Du coup, nous en sommes le temple. Alors l'Église, d'abord, est le temple de l'Esprit. C'est-à-dire, l'Église a pour but de rendre visible l'œuvre de l'Esprit, de rendre visible l'Esprit, de rendre visible l'amour. C'est pas tous les jours que ça marche. Mais c'est quand même sa tâche. Et chacun d'entre nous, nous sommes le temple de l'Esprit. Et d'une certaine façon, habité par l'Esprit, nous sommes un peu comptables de la façon dont les gens vont pouvoir le rencontrer ou pas à travers nous. Je disais l'autre jour à des petits jeunes gens là qui sont de morale, je dis, moi il y a un truc qui m'a beaucoup aidé dans ma vie pour les prises de décision, c'est que j'étais connu comme catho. Et donc je ne pouvais pas les faire, parce que si je les faisais, on disait, mais alors il n'y croit pas, mais alors ça compte pas, mais alors c'est pas vrai, leur truc. Bon. Et donc c'était moi, par morale ou par peur d'en faire, qu'en disant, ben voilà, tu ne peux pas ne pas accomplir ce dont tu es chargé, c'est-à-dire manifester la présence de l'Esprit en ce monde. Rassurez-vous, je ne fais pas ça tout le temps, hein. Mais il y a quand même eu des moments dans ma vie où j'ai été fidèle à la grâce. L'Esprit qui conçoit les fils que l'Église engendre par la prédication et le baptême la pousse à s'étendre, à apprendre le langage de son temps. Ça, c'est dit en 1962, entre parenthèses. L'Église doit apprendre le langage de son temps. C'est-à-dire, pour moi, un des problèmes les plus navrants aujourd'hui, c'est qu'il est très rare que, au moins dans les communications publiques, l'Église parle le langage de son temps. Voilà. Alors, on fait ce qu'on peut, hein, on est des pauvres hommes comme les autres. Moi aussi, hein, quand j'écris des textes officiels, c'est à sculpter dans le marbre pour ce qui suit. Quoi. Puis après, on dit, ça veut dire quoi, monsieur? Mais apprendre à évangéliser le monde. Il accompagne les évêques et tout le magistère, l'Esprit-Saint accompagne les évêques, ça c'est consolant. Il consacre les évêques et les prêtres, les laïcs, loin de l'Esprit, doivent vivre toute leur vie dans l'Esprit. Alors je vous renvoie à Éphésiens 5, hein, pour savoir ce que c'est que la vie dans l'Esprit. Laissez-vous conduire par l'Esprit, vous savez. Alors il fait une liste, il y a peut-être un truc qui vous écorchera au passage, mais il fait une liste des trucs qui sont vraiment pas bien, et puis il fait une liste des trucs qui sont vraiment extraordinaires, quoi. Et c'est vrai, quand on le lit, on se dit quand même que la deuxième partie, c'est vrai. Quoi. Quand on le vit, on a un peu le sentiment de l'Esprit de Dieu. Il est à l'œuvre dans le cœur des hommes, de sorte qu'il prévient et précède l'activité missionnaire. Ça, c'est dans le décret sur les missions, Agentes, au numéro 4 et au numéro 29. L'Église dit, mais l'Esprit-Saint ne nous a pas attendus. Quand je rencontre quelqu'un, l'Esprit est déjà à l'œuvre dans son cœur. Puisque le jour de Pentecôte, l'Esprit n'a pas seulement été donné à l'Église, mais selon la prophétie du prophète Joël, il a été répandu sur toute chair. Et donc celui qui est en face de moi, il a l'Esprit-Saint dans son cœur. Et l'Esprit-Saint parle à son esprit. Il a peut-être du mal à déchiffrer, l'Esprit-Saint lui parle. Autrement dit, ce n'est pas moi qui viens lui annoncer quelque chose. Je viens peut-être l'aider à comprendre quelle est cette musique intérieure qu'il n'arrivait pas à interpréter. Il est à l'œuvre dans le cœur des hommes, donc. Et dit le Concile, l'homme, tout homme, sans cesse sollicité par l'Esprit de Dieu, ne sera jamais tout à fait indifférent aux problèmes religieux, comme le prouve non seulement l'expérience des siècles passés, mais de multiples témoignages de notre temps. L'homme voudra toujours connaître, ne serait-ce que confusément, la signification de sa vie, de ses activités et de sa mort. Le Christ agit désormais dans le cœur des hommes par la puissance de son Esprit. Il n'y suscite pas seulement le désir du siècle à venir, mais par là même anime aussi, purifie et fortifie ces aspirations généreuses qui poussent la famille humaine à améliorer ses conditions de vie et à soumettre à cette fin la terre entière. On voit bien aujourd'hui ce que c'est qu'un projet de la terre qui n'est pas conforme à l'amour, dont l'esprit est absent. Bon, aujourd'hui, on fait l'inventaire des dégâts qu'on a accomplis. Mais quand on regarde bien derrière, c'est parce qu'il y a eu ce que ces païens de Grecs ont appelé l'hubris, le désir désordonné de posséder toute chose au-delà de ce qu'on peut faire. Et qui, à un moment, fait que l'autre n'existe plus. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette immolation, on n'est plus dans cette obéissance. On est au contraire dans la prétention de posséder. Et moi, je reste très effrayé. Vous savez, comme tout évêque, je suis obligé parfois d'entrer dans des affaires assez crapoteuses. Et là, récemment, mon tribunal a dû juger un cas criminel assez sordide, dans lequel, à première lecture, c'est l'histoire de fesses. Mais dans la réalité, c'est pas vrai. Comme beaucoup d'histoires de fesses, c'est d'abord une histoire de pouvoir et d'appropriation de l'autre. Et l'esprit nous rend chaste. C'est-à-dire qu'il nous empêche de vouloir posséder autrui, quand bien même ça nous coûte. Et c'est ça la vraie chasteté. La vraie chasteté, c'est une fois pour toutes, dans ma vie, je décide que je ne posséderai personne. Peut-être que je me donnerai à quelqu'un, mais je ne posséderai pas. Parce que l'autre ne m'appartient pas, il est une liberté. Le Concile continue, parlant de l'Esprit Saint, il agit dans l'Église et la remplit, il en est le principe d'unité. Mais il agit aussi en dehors des limites visibles de l'Église catholique et se sert des Églises séparées comme moyen de salut. Autrement dit, il n'y a pas que chez les catholiques, il y a l'Esprit Saint. Il ouvre le cœur des non-chrétiens à l'annonce de l'Évangile. C'est avec cette grande idée, alors on en reparlera dans un prochain entretien, mais c'est cette grande idée que l'Église, il n'y a que Dieu qui en connaît les frontières. Et selon ce que disait toujours mon cher confrère Saint-Augustin, qui disait, il y en a qui ont l'air d'être dedans et qui sont dehors. Il y en a qui ont l'air d'être dehors, qui sont dedans. Mais c'est Dieu qui le sait, car lui seul connaît les cœurs. Et qu'à Vatican II, l'Église a refusé une fois pour toutes de délimiter ses frontières. Il reviendra en disant que l'appartenance est par cercle concentrique, le plus extérieur au plus intérieur. Et le Concile conclut en parlant de l'Esprit Saint, que je vous invite à invoquer souvent. Il est le seul Saint avec le Père et le Fils. Jour, on aura peut-être l'occasion de parler de ce que c'est que la sainteté. Ainsi, l'Église est-elle l'Église de la Trinité, selon la citation de Saint Cyprien que le Concile adopte. Belle définition de l'Église. L'Église universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit.